Bienvenue dans Dessine-moi un corps, le podcast pour tous les amoureux du corps et d'histoire de l'art. Bonne écoute. Si je vous dis art brut, ça vous évoque quoi, vous? Si vous avez suivi des études d'histoire de l'art, sans doute vaguement quelque chose. C'est vrai que ça sonne drôle comme appellation, et pourtant rien de plus touchant et universel que l'art brut quand on y réfléchit. On doit ce terme à Jean Dubuffet, inventeur du concept d'art brut en 1945. Par cette appellation, il désigne des artistes autodidactes, n'ayant aucune éducation intellectuelle ou artistique. Ce sont en général des patients suivis en psychiatrie, des marginaux, des laissés pour compte. Les œuvres illustrent leur état mental, souvent fragile, et leur manière unique de percevoir le monde. Mais à vrai dire, y a-t-il vraiment un concept art brut à proprement parler ? Dubuffet choisissait l'art brut pour provoquer, bousculer, voire déranger autrui, mais aussi pour réfléchir. Il a questionné ainsi la notion d'œuvre d'art. Faut-il nécessairement qu'elle soit faite par un artiste qui a suivi une formation ou qui vient d'un milieu académique et artistique ? Je vous laisse trouver la réponse. L'art des fous, ou art psychopathologique, mais aussi l'art médiumique, tant prisé par les surréalistes, et enfin l'art des marginaux. Tant d'appellations pour qualifier au final ceux qui ont des histoires à raconter, des obsessions intimes à assouvir, ou bien encore des choses à régler avec eux-mêmes. Ce sont surtout des gens libres, qui ne créent pas pour les autres, donc sans souci de produire, des artistes universels, qui parlent au monde, et c'est pourquoi il me tenait à cœur d'en parler dans le podcast, parce qu'au final je ne me suis jamais vraiment penchée sur eux, à tort. Ces œuvres d'artistes d'art brut constituent des luttes que le créateur mène avec sa propre image et son vécu propre. Pour certains d'entre eux, le corps est le refuge d'une intimité plus que complexe. Pour d'autres, une prison à fuir, un carcan à briser ou encore le terreau d'énergie à libérer et à transformer. Bref, le corps est central et c'est ce que nous allons tenter de voir à travers quelques exemples que j'ai soigneusement choisis. Trigger warning, je ne compte pas aborder l'aspect médical ou pathologique dans cet épisode, car je ne suis pas assez qualifiée pour en parler, mais vous pourrez vous renseigner par vous-même via la bibliographie toujours utile que je vous concocte en fin d'épisode. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Chaque artiste d'art brut est unique, car bien souvent, on n'a pas même conscience d'être un artiste. Pour cette raison, on a du mal à les mettre dans des cases ou les rattacher à un quelconque mouvement. Aussi parce que mettre les gens dans les cases, disons-le franchement, ce n'est pas le plus agréable. Mais tous ont en commun d'être sincères et d'utiliser leur corps comme médium, moyen d'expression ou matériau, certains plus que d'autres. En art brut, on est bien évidemment très loin des canons de l'esthétique de l'art occidental et d'une certaine idée de la sensualité. Le rapport au corps est ici très complexe, cette enveloppe charnelle dont l'individu ne peut pas s'échapper et qui, dans le cas de ses auteurs, est à la fois un piège et l'objet de leur créativité. Comment ne pas citer sans doute la plus illustre des artistes d'art brut, Aloïse Corbaz, créatrice d'un monde parallèle féminin et fleuri, dont Margot Bruvin a fait le portrait il y a peu sur Instagram. Ce nom vous évoque sans doute quelque chose. Internée dans un asile psychiatrique en Suisse pendant une grande partie de sa vie, Aloïse envisage le corps sous l'angle du plaisir charnel, comme en témoignent les poitrines opulentes des figures féminines dans ses pastels et peintures. Elle fait véritablement l'éloge du corps féminin, transformant les sexes en véritables fruits ouverts. A l'inverse, l'artiste autrichien Joseph Hofer se concentre lui presque exclusivement sur la représentation du corps masculin et de sa sexualité exacerbée. Le dessin qu'il pratique depuis 1985 constitue son unique moyen d'expression. N'ayant jamais fréquenté aucune école, il a vécu dans l'isolement la majorité de son existence. Sa quête de désir et d'identité se ressent à travers ses dessins compulsifs qu'il fait à la chaîne. Désir souvent interrogé et remis en question par les artistes d'art brut, comme nous le verrons à de très nombreuses reprises dans cet épisode. On peut penser la même chose chez Miroslav Tichy, un artiste qui réalise quotidiennement des dizaines de clichés, sous ou surexposés, ayant pour sujet principal et, on peut dire obsessionnel, les femmes de Kijov, une ville dans le sud de la République tchèque. Ainsi apparaissent dans ses clichés des femmes de dos assises sur un banc, prises au dépourvu dans un reflet de vitrine. Il développe ses photos comme il peut et les retouche au crayon. Si ça, c'est pas du fétichisme de corps, les amis. La mécanique interne du corps est aussi illustrée chez certains auteurs par le biais de schémas corporels, comme dans le travail de l'artiste chinoise Guo Fengyi, qui représente les fluides qui nous traversent. Dit comme ça, ça n'a pas l'air ragoûtant, pourtant ça l'est, je vous assure. Le thème qui domine toute la production de Guo Fengyi est le corps humain lié aux croyances populaires comme le taoïsme, le yi-qing ou le qigong. Ces personnages s'entremêlent en un réseau de traits et d'arabesques qui se succèdent et s'apparentent à des fils brodés. L'expérience personnelle de la maladie et de la souffrance lui procure une sensation aiguë de son corps, très précises, plus particulièrement des zones qui lui sont douloureuses. C'est cette douleur que l'artiste projette sur ses rouleaux en papier de riz, comme une sorte de thérapie par le dessin, si je puis dire. Comme vous avez compris, on ne peut nier l'omniprésence de la sexualité et de l'érotisme en art brut. Mais il n'y a pas que cette brèche-là. Quand on parle de corps, beaucoup de portes sont ouvertes. Le corps dégradé ou blessé est aussi mis en avant, comme chez l'artiste sicilien Giovanni Bosco. Dans sa chambre, Giovanni passe des heures à peindre sur des morceaux de carton un univers graphique peuplé de corps morcelés. Les formes, sobres et économes, essentiellement des parties du corps humain telles que le cœur, un bras, une jambe, des poumons, parfois accompagnées de l'ossature et de la musculature. Certains dessins sont accompagnés d'inscriptions maladroites, où l'auteur mentionne notamment son identité, son année de naissance, celle de son père, ainsi que des noms de villes italiennes ou de villages siciliens qu'il connaît très bien. Il inscrit aussi des paroles de chansons napolitaines de Mario Merola qu'il connaît par cœur et qu'il chante parfois à tue-tête lorsqu'il travaille. Celle qui me tenait particulièrement à cœur, c'est Carole Rama. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on ne la considère pas vraiment comme une artiste brute. Autodidacte, Carole Rama considère sa pratique comme une thérapie. Son inspiration étant très largement autobiographique, l'œuvre de Carole Rama met le corps au cœur de son propos. Corps-cœur, on s'y perd un peu. Dans son travail, le corps est torturé, vulnérable, blessé, vibrant de désir et de frustration. Il est suspendu, étiré, pénétré, chevauché. Dans quelques-uns de ses tableaux, qui rappellent nécessairement les autoportraits de Frida Kahlo en chaise roulante ou sur un lit d'hôpital, Carole Rama tronque le corps féminin, le couche sur un lit, l'attache à une chaise, le sangle à des roues et nous renvoie à l'image d'une féminité qui serait une forme de torture. Évitant ainsi toute idéalisation ou vision romantique, elle propose une version de l'incarnation féminine douloureuse, notamment dans son œuvre Appassionata. Ces femmes avec des serpents ou des pénis sont bien plus que des figures freudiennes, souffrant autant du désir que du manque de pouvoir. Carole Rama invente aussi un corps politique qui résiste aux idéaux de genre, de sexe et de santé imposés par le fascisme, qui sévit dans les années 20 jusqu'aux années 40. L'artiste italienne se tourne alors vers l'abstraction dans les années 50 et 10 ans plus tard vers un art informel où elle élabore des sortes de bricolages, œuvres composites mêlant peinture et débris. Dans les années 70, elle réalise les fameuses images matières avec du caoutchouc, rappelant la texture de la peau et de la chair. Finalement, elle revient à un style figuratif dans les années 80. En art brut, la question du travestissement du corps est aussi primordiale. On pense aux sculptures de plâtre peintes de Morton Bartlett, petit garçon au chapeau ou petite fille en robe rose et soquette pour lesquelles il avait confectionné une garde-robe complète avec accessoires. Non seulement il crée ces drôles de poupées-sculptures de toutes pièces, mais les photographie ensuite avec une drôle de mise en scène. On peut citer aussi les photographies de Marianne Hennel, dans lesquelles il se montre habillé en infirmière et exhibant ses fesses. Plus tard, Marianne Hennel met en scène des poupées vêtues d'uniformes d'infirmière dans des postures érotiques. Fasciné par les femmes aux formes opulentes, il veut leur ressembler. Il traite son corps comme un objet artistique et tente alors de se métamorphoser en femme. Il s'épile tout le corps, passe ses journées à manger du sucre pour prendre du poids, s'habille dans des tenues qu'il se confectionne lui-même. Ses créateurs et créatrices bouleversent par leur vécu, leur histoire. Il est impossible de regarder leurs œuvres sans penser à eux en tant qu'individus propres. Aujourd'hui, l'art brut est mis sur le même plan que les autres formes artistiques, et on le voit clairement d'ailleurs avec le regain d'intérêt que lui portent les grandes institutions, qui l'intègrent à leur collection. Cependant, tous ces corps longtemps invisibilisés sont autant de corps chair, corps système, corps meurtri, corps passion, corps désireux et désirant. On se sent proche d'eux car ils racontent tous quelque chose. C'est l'intime qui parle après tout. Ils sont si nombreux. J'aurais pu tous les citer. Éric Derken, Emma Santos, Philippe Schopke, Ted Gordon, Auguste Walla, Katharina. J'en ai choisi certains, peut-être parce qu'ils parlaient plus à ma sensibilité, je ne sais pas. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu et vous aura surtout donné envie de découvrir, si ce n'est pas déjà fait, l'œuvre de tous ces artistes uniques en leur genre. Merci pour votre écoute. On se retrouve très vite pour un épisode sur un tout autre thème. À très vite, prenez soin de vous et à la prochaine.